Bonjour fidèles auditrices et auditeurs. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Je suis Nanit Talani depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale fédérale américaine. À la une de l'actualité, rapatriement des corps des soldats sud-africains tués dans l'est de la RDC, toujours en crise. La solution à cette crise sera au cœur de nos dossiers du jour avec les églises congolaises qui lancent un appel à la paix dans l'est et promettent une médiation nationale. Une interview exclusive de Monseigneur Donatien Tcholé à suivre à ce sujet. Procès de l'opposition togolaise, 14 manifestants condamnés à 10 ans de prison. Les USA gèlent leur contribution au fonds de sécurité en Haïti, plongeant la mission de l'ONU dans l'incertitude. En économie, salon de l'agriculture 2024 à Paris, le Maroc prend la tête avec ses produits du terroir. Et puis en sport, Souleymane Abedi Camara reprend les commandes de la sélection nationale locale de la Guinée. Tout de suite, les infos. Les corps de 14 soldats sud-africains tués ces deux dernières semaines lors de la prise de Goma par le groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo doivent être rapatriés ce mercredi, a annoncé hier le chef des forces de défense sud-africaines. Les détails avec Dili Diko. Nous reviendrons sur ces détails dans notre prochaine édition. Jean-Jacques Wondo, un Belge d'origine congolaise, condamné à mort en République démocratique du Congo pour sa participation à une tentative de coup d'État en mai, a été libéré de prison mardi pour recevoir des soins médicaux. D'après son avocat, Wondo doit arriver en Belgique jeudi. Le ministère belge des Affaires étrangères a confirmé sa libération, précisant que des efforts consulaires ont été déployés pour sa libération. Jean-Jacques Wondo, expert militaire ayant collaboré avec les services de renseignement congolais, avait été condamné à mort lors d'un procès militaire en septembre aux côtés de 36 autres accusés, dont 3 Américains. Il a toujours nié les accusations portées contre lui. Le premier ministre tchadien Alamaï Alina a été reconduit à son poste après avoir présenté sa démission le jour de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale élue en décembre 2024. Un décret présidentiel diffusé mardi a confirmé sa reconduction. Monsieur Alina avait annoncé sa démission dans une lettre adressée au président Mahamat Idriss Déby Itno, expliquant que cette décision faisait partie de la tradition républicaine suite à l'installation de la nouvelle législature. Au Togo, 14 personnes accusées d'avoir pris part aux manifestations contre le régime togolais en 2018 ont été condamnées à 10 ans de prison par la cour d'assises de Lomé. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Emprisonnés depuis 6 ans, les accusés ont été reconnus coupables de complot contre la sécurité intérieure de l'État et délit de groupement de malfaiteurs. Ils avaient participé à une manifestation de l'opposition en décembre 2018, malgré l'interdiction des autorités. 4 autres accusés en fuite ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'un mandat d'arrêt international. Darius Atsou, l'un des avocats des accusés, a déploré le manque d'audace de la cour d'assises, affirmant que les accusés avaient été torturés. L'une des personnalités de ce procès est l'Irlando-Togolais Abdulaziz Goma. Il avait été arrêté pour avoir pris en charge les frais de logement de plusieurs jeunes venus manifester. Sa détention arbitraire a été dénoncée à plusieurs reprises par la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme, Mary Leolor, qui elle aussi avait évoqué des actes de torture. En 2017 et 2018, des manifestations organisées par l'opposition et la société civile ont eu lieu au Togo pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces manifestations ont été sévèrement réprimées et plusieurs manifestants ont été tués par les forces de l'ordre.
C'était plutôt Firmin Max Kouyaouida. Au Soudan, 25 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes de l'armée soudanaise sur le Darfour Sud, une région principalement contrôlée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces attaques ont visé Niala, la capitale du Darfour Sud, pour le 2e jour consécutif. Les combats entre l'armée et les FSR, qui durent depuis avril 2023, ont causé des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés à travers le pays. 9 fonctionnaires, ou hauts fonctionnaires en tout cas, du ministère des Finances de l'Ouganda, dont le comptable général, ont été arrêtés pour avoir détourné près de 16 millions de dollars destinés au remboursement de prêts à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. La fraude a été découverte fin 2024 après que le vice-gouverneur de la Banque d'Ouganda a révélé des transferts suspects de fonds vers des comptes à l'étranger. Sur les 15,7 millions de dollars détournés, plus de 6 millions étaient destinés à la Banque mondiale et 8,5 millions à la Banque africaine de développement. L'enquête a confirmé qu'aucun piratage informatique n'était impliqué, mais que la fraude provenait de sources extérieures à la Banque d'Ouganda. L'Ouganda est classé 141e sur 180 dans l'indice de corruption de Transparency International.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le gouvernement du président Donald Trump continue de prendre forme après que Robert Kennedy Jr. a passé mardi l'un des derniers obstacles à sa nomination comme ministre de la Santé, malgré l'opposition d'élus démocrates qui dénoncent notamment ses positions anti-vaccins. Le point avec Jean-Roger Billon.
Robert Kennedy Jr. a obtenu la recommandation d'une commission du Sénat dont les 14 membres républicains ont voté pour et les 13 démocrates contre. Le neveu du président assassiné JFK doit désormais voir sa nomination confirmée par l'ensemble des sénateurs comme le veut la Constitution. Une étape qui s'annonce bien moins périlleuse au vu de la majorité dont disposent les républicains à la Chambre haute. À 71 ans, RFK Jr. doit prendre la tête d'un ministère employant plus de 80 000 personnes, avec pour programme de rendre à l'Amérique sa santé, calque du slogan « Make America Great Again » de Donald Trump. L'annonce de sa nomination avait provoqué l'indignation de nombreux élus démocrates en raison de son soutien à des théories comme celle faisant le lien entre vaccination et autisme chez les enfants. Il est toutefois salué par des personnalités des deux bords politiques pour son combat contre la malbouffe et la domination des groupes pharmaceutiques. Ex-démocrate Robert Kennedy Jr. s'était rallié à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle après avoir été candidat indépendant. Le président républicain lui a réitéré son soutien mardi.
Le Sénat américain a confirmé Pam Bondi à la tête du ministère de la Justice. Ancienne procureure générale de Floride et avocate de Donald Trump lors de son procès en destitution en 2020, Bondi a promis de ne pas politiser ses fonctions. Cependant, des sénateurs démocrates expriment des préoccupations sur son indépendance. Certains craignent que Bondi puisse obéir à Trump si ce dernier lui demandait d'agir de manière illégale. Bondi sera assisté par des avocats proches de Trump dans ses nouvelles fonctions. Les États-Unis ont demandé à l'ONU le gel immédiat de leur contribution au fonds destiné à financer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti, a annoncé un porte-parole des Nations Unies mardi. Cette mission, chargée d'aider la police haïtienne contre les gangs, était déjà sous-financée. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Nous avons reçu une notification officielle des États-Unis de suspension immédiate de leur contribution financière à la Force multinationale d'appui à la sécurité, a déclaré Stéphane Dujarric, donnant cette notification en exemple de l'impact du gel général de l'aide internationale américaine annoncé par Donald Trump. Avec 15 millions de dollars, les États-Unis étaient le deuxième contributeur de ce fonds, derrière le Canada qui contribue à hauteur de 63 millions de dollars. Sur les 15 millions versés par Washington, 1,7 million a déjà été dépensé, a précisé Stéphane Dujarric, indiquant que les 13,3 millions restants étaient désormais gelés. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné en octobre 2023 son feu vert à la mission internationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya pour aider la police de Haïti dépassée par la violence des gangs. L'ONU a mis en place un fonds volontaire pour la financer qui a recueilli jusqu'alors 110 millions de dollars, un montant jugé largement insuffisant. Dans le cadre de la mission, Seulement quelques 800 policiers de 6 pays ont été déployés progressivement depuis l'été dernier sur les 2500 espérés. Et les attaques des gangs, qui contrôlent déjà, selon l'ONU, 85% de la capitale, ne semblent pas avoir faibli depuis.
James Hansen, un éminent climatologue américain, a déclaré que l'objectif de maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle fixée par l'accord de Paris était désormais mort. C'est tout pour les actualités. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à retrouver sur voaafrique.com. Eric Manirakiza nous livre maintenant l'essentiel des tendances économiques actuelles en Afrique et à l'international.
Le salon de l'agriculture, qui aura lieu du 22 février au 2 mars à Paris, mettra pour la première fois un pays à l'étranger à l'honneur, le Maroc, ont annoncé mardi ses organisateurs qui veulent insister sur la dimension internationale de l'événement. Le stand du Maroc au sein du pavillon international sera agrandi et présentera des produits du terroir marocain, huile d'argan, d'olive, safran, et date a énuméré le directeur général de l'Agence pour le développement agricole. Les États-Unis ont suspendu pendant 30 jours l'imposition de tarifs douaniers sur les produits canadiens, mais des milliers de travailleurs du secteur automobile des villes frontalières restent inquiets face à 4 ans d'incertitude. Windsor dépend fortement de l'industrie automobile, notamment de la production de moteurs pour Ford, et sans elle, la ville risquerait une grave récession. Un véhicule moyen contient 30 000 pièces détachées qui traversent plusieurs fois la frontière entre les États-Unis et le Canada. Les économies de Windsor et de Detroit sont interconnectées et 500 000 emplois en Ontario, cœur industriel du Canada, sont en jeu.
À présent, notre résumé de l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Souleymane Abedi Camara reprend les commandes de la sélection nationale locale de la Guinée.
Oui, il y a quelques semaines, Souleymane Abedi Camara, sélectionneur du Sili National APIM, et son adjoint Guillaume Souma avaient été écartés de leurs fonctions par la Fédération guinéenne de football au motif que les deux techniciens ne disposaient pas des licences A, CAF ou équivalentes exigées par la Confédération africaine de football pour entraîner les équipes nationales. Cette réévaluation procède d'une mission d'information du président de la Fédération Araba en marge de la cérémonie de tirage au sort de la CAN Maroc 2025 et de l'évaluation du dernier développement de la situation au niveau de la CAF qui, bien qu'ayant envisagé ces critères dans le cadre de la professionnalisation du football en Afrique, ne décide pas de l'appliquer en ce moment et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Fédération guinéenne de football ajoutant que Souleymane Abedi Camara et Guillaume Souma se sont engagés à accomplir leur mission et qu'ils ont sollicité du comité exécutif de la FEGIFOOT un appui pour bénéficier des 240 heures de formation pour la licence A.
Ici en NBA, Luka Doncic dit avoir fin du titre avec les Lakers.
Le prodige a promis de mener les Lakers de Los Angeles au titre de champion de la NBA lors de sa présentation officielle par la franchise hier, après son échange spectaculaire avec les Dallas Mavericks devant un partenaire de reporter, la superstar slovène de 25 ans a admis qu'elle n'avait pas encore digéré le choc de son départ de Dallas. C'est le business a sobrement commenté de son côté Anthony Davis au moment de quitter les Los Angeles Lakers pour les Mavericks. Doncic a lui déclaré que la perspective de jouer aux côtés de la légende LeBron James, âgé de 40 ans, au sein de la franchise la plus emblématique de la NBA, représentait un rêve devenu réalité et une opportunité d'apprendre. Des rumeurs ont suggéré que Dallas a opté pour l'échange de Doncic en raison des préoccupations concernant sa condition physique. Faux, selon Luka Doncic, qui dit vouloir se servir de ses critiques comme une source de motivation pour sa carrière aux Lakers.
Tennis, l'ex numéro 1 mondial Simona Halep annonce sa retraite.
La Roumaine, ancienne numéro 1 mondiale a annoncé sa retraite lors du tournoi de Cluj-Napoca disputé dans son pays. Simona Halep a pris la parole à l'issue de son match perdu face à l'italienne Lucia Bronzetti, 72e mondiale 6-1-6-1 lors du premier tour. Je ne sais pas si c'est avec joie ou tristesse que je vous parle, mais j'ai pris cette décision à mon âme et conscience. J'ai toujours été lucide, mon corps ne suit plus, mais aujourd'hui je voulais jouer et faire mes adieux sur le coup, a expliqué la joueuse de 33 ans devant le public roumain. Elle a remporté dans sa carrière carrière 24 titres, dont Roland Garros en 2018 et Wimbledon en 2019. Elle a aussi disputé 3 autres finales de Grand Chelem, Roland Garros en 2014 et 2017 et l'Open d'Australie en 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours dans ce studio, vous invite à découvrir nos dossiers du jour. Crise dans l'est de la RDC, la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC, Église du Christ au Congo, ont lancé ce que ces deux structures appellent le pacte social pour la sortie de crise. Ce projet de dialogue a été bien accueilli par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Hier, Monseigneur Donatien Tchoulé et le révérend Eric Senga ont entamé une tournée pour rencontrer toutes les forces vives de la nation. Depuis Kinshasa, la capitale congolaise, Monseigneur Donatien Tchoulé en parle au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Bon, je crois que vous avez déjà eu vent de ce projet, qui est une contribution des églises protestantes et catholiques de notre pays, comme réponse à la crise sécuritaire particulièrement, qui perdure depuis plus de 30 ans. Nous sommes devant l'évidence selon laquelle la solution militaire n'en est pas une. L'approche jusque-là de la diplomatie n'a pas encore obtenu des résultats escomptés. Voilà pourquoi nous voulons emprunter aussi dans la sagesse africaine, dans la philosophie de Mumuntu, l'approche de la palabre africaine, pour essayer de régler nos différends dans l'objectif d'arriver à un pacte social pour la refondation de l'État.
Et nous avons vu aujourd'hui, vous avez été aussi avec l'un des leaders de l'opposition, Martin Fayulu. Comment a-t-il reçu ce projet et comment est-ce que vous entrevoyez organiser ce que vous appelez les jours prochains, le dialogue que vous allez organiser?
Donc, il était question avec lui de lui expliquer notre philosophie pour y participer et que ça déjà comment il peut se préparer pour apporter sa contribution autant qu'on fera aussi avec les autres.
Nous savons que vous allez le faire aussi pour d'autres forces vives de la nation, comme vous avez dit, mais quelle garantie avez-vous, Monseigneur Tchoulé, par rapport à la démarche que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, que la situation pourrait s'améliorer pour que la paix revienne en RDC?
Bon, écoutez, il n'y a pas de garantie mathématique ni spirituelle à vous donner. Nous sommes des hommes de foi et d'espérance. Nous sommes sensibilisant, mais il appartient à la dynamique qui sera mise en place de trouver les mécanismes pour la garantie de la mise en œuvre de ce qui sera décidé. Évidemment, en changeant déjà avec l'un et l'autre, il pose cette question de garantie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui garantit que ce qui sera décidé sera appliqué? Je ne vais pas donner des propositions à la place des autres. On sera nommé à y réfléchir, mais il y a moyen de mettre en place des mécanismes pour la garantie de la mise en œuvre de ce pacte.
Monseigneur Donatien Tchoulé, joint à Kinshasa en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
À la frontière entre le Tchad et le Darfour, la VOA a rencontré des réfugiés qui ont fait des témoignages poignants sur ce que les États-Unis ont décrit comme des actes de génocide au Soudan qui auraient été commis par les forces paramilitaires de soutien rapide. Alors que les réfugiés appellent à l'action, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre des dirigeants des forces de soutien rapide et des milices qui leur sont associées. C'est un reportage d'Henry Wilkins depuis Adré au Tchad, avec le récit d'Eric Manirakiza.
Nour Al-Latif est une réfugiée qui, comme des centaines de milliers d'autres, a fui la région soudanaise du Darfour vers le Tchad pour échapper aux violences ethniques de ces deux dernières années. Elle est également psychologue de formation et passe désormais ses journées dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et le Darfour, où elle apporte un soutien psychosocial aux victimes.
Le traumatisme psychologique est pénible. La perte d'être cher est immense. Les décès sont devenus trop fréquents. Certaines familles ont perdu leurs deux parents. Dans ces cas-là, l'enfant devient le gardien de la famille.
Al-Latif explique qu'elle travaille avec une jeune fille de 14 ans qui est devenue chef de famille après la mort de ses deux parents. La VOA a passé plus d'une semaine dans le camp de réfugiés d'Adré à parler aux victimes.
Pratiquement tout le monde ici dans le camp d'Adré a une histoire horrible à raconter. Des amis, des membres de la famille, des voisins ont été assassinés dans ce que les États-Unis ont appelé un génocide.
Et les États-Unis affirment que d'autres crimes contre l'humanité sont également commis. Le nom de cette réfugiée a été changé et son identité protégée par crainte de représailles si elle retourne au Darfour.
Ils ont tué ma mère et mon frère. Ils les ont tués dans ma maison. Ils ont tué beaucoup de gens.
Et raconte qu'elle a ensuite été violée par des milices liées aux forces paramilitaires, des forces de soutien rapide FSR. Mohamed Idriss Adam, un artiste bien connu dans la ville d'Arfouri d'El Jenina, raconte qu'il figurait sur une liste de cibles des forces de soutien rapide. Il a fui la ville, laissant derrière tout ce qu'il possédait.
Le monde entier condamne les violations des droits de l'homme et il existe des accords dans le cadre des Nations Unies, etc. Les responsables doivent être jugés pour les crimes commis au Darfour.
Les États-Unis ont sanctionné le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, et d'autres membres importants du groupe. Pendant ce temps, le traumatisme des victimes continue, dit Al-Latif. Et pour beaucoup d'entre elles, il semble s'aggraver la nuit.
Pendant la journée, ils ont tous l'air d'aller bien, mais la nuit, ce sont les cris et le chaos dans les rues. C'est incroyable.
Bien que les Darfouris d'Adré aient eu la chance de s'échapper, ils vivent toujours avec l'horreur dont ils ont été témoins.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM. Au Bénin, le coton est bien plus qu'une culture. C'est l'or blanc du pays et le pilier de son économie. Les cotonculteurs passionnés offrent de la matière aux installations ultramodernes de la zone industrielle de Glodibé et aux artisans. Yacouba Ouedraogo nous introduit dans l'univers de cette filière stratégique pour le Bénin.
Vue aérienne sur le champ de coton de 3 hectares de Mathias Azonundo à Soklobo dans la commune de Dassazoumi. C'est le temps des récoltes pour ce cotonculteur de 50 ans ici à l'œuvre avec l'aide de 3 salariés dans le centre du Bénin.
4 tonnes 400.
L'année passée, j'ai pu obtenir une production de 4 tonnes 400. Pour cette récolte, je ne sais pas encore exactement ce que cela va donner parce que cette production n'a pas donné ce que j'espérais.
Depuis plusieurs mois, la demande en coton augmente dans le pays. Le Bénin devrait produire 669 000 tonnes de coton pour la campagne 2024-2025.
Le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes. En 2021. Et donc, toute cette production était exportée de façon brute vers le Bangladesh et d'autres pays.
Mais récemment, le pays s'est lancé dans l'exportation de produits finis en coton made in Bénin. Cette ambition repose en grande partie sur la zone industrielle de Glodibé, dans le sud du pays. Le site comprend des unités de filature, tissage, teinture et tricotage pour fabriquer des produits textiles 100% coton.
Aujourd'hui, la GDIZ a une capacité de transformation de 40 000 tonnes de fibres. Et donc, pour transformer tout ce que nous produisons comme fibres aujourd'hui en République du Bénin, à peu près 305 000 tonnes de fibres, il nous faut une trentaine d'unités intégrées de textiles.
Ici, dans ce showroom de la zone, des échantillons des différents articles fabriqués par la société sont exposés. On y voit des t-shirts, des chemises, des pantalons, des robes ou encore des uniformes militaires et de policiers. Le Bénin transforme désormais un tiers de son coton selon l'agro-économiste Nestor Adjovi à Oyo.
Il y a un certain nombre de gens qui vont rentrer dans cette dynamique et qui vont trouver de l'emploi. Il y a des emplois directs et les emplois indirects. Et il y a aussi les revenus que les uns et les autres pourront tirer et ce qu'ils pourront en faire.
À plus petite échelle, des petits artisans comme la marque de vêtements et bijoux couleur indigo située dans la ville côtière de Ouida s'y mettent aussi. Elle a été créée en 2007 par Nadia Adanlé, qui dit vouloir proposer un produit authentique purement béninois en coton.
Ici, on a fait le choix d'utiliser le coton déjà parce qu'on en produit et il fallait bien valoriser notre propre matière première. Et deuxièmement, l'avantage du coton par rapport à d'autres fripes, c'est déjà le confort à l'usage. Quand on porte ce coton, il est aéré, il est bon pour le corps, il est hypoallergénique.
L'Étendi Béton estime que les investissements présents et futurs permettront dans les 5 à 6 prochaines années d'avoir une trentaine d'unités intégrées de textiles pour transformer la quasi-totalité du coton au Bénin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les groupes de défense des droits humains s'opposent au décret du président américain Donald Trump visant à détenir les sans-papiers au centre d'opération pour les migrants de la base navale américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Alors que des migrants ont été détenus à Guantanamo sous les administrations précédentes, ces groupes affirment que ce que fait Trump est différent. Le reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, récit Claire Morin-Gibourg.
Guantanamo Bay à Cuba est surtout connu comme la prison où étaient détenues des personnes soupçonnées de terrorisme, notamment celles amenées après les attentats du 11 septembre 2001 et des membres des talibans. Cette semaine, la base navale américaine a de nouveau été mise en avant alors que les autorités préparent le centre d'opération pour migrants qui doit détenir 30 000 migrants en vertu du décret du président Donald Trump.
Cela pourrait augmenter, oui, mais les pays qui ne veulent pas reprendre les criminels qu'ils nous ont envoyés, vous savez, ils nous les ont envoyés, ils les ont mis dans les caravanes et ils sont entrés aussi sûrement que vous vous tenez là, ils ont été envoyés par ces pays et alors ils seront accueillis très durement avec des sanctions, etc.
Les groupes de défense des droits affirment que la loi américaine autorise la détention d'un migrant pour une courte période en attendant son expulsion. Mais si le pays d'origine n'est pas disposé à accepter la personne, la détention pour une durée indéterminée est illégale. À Guantanamo, les détenus n'ont aucun recours. Bill Frelick est le directeur de la division droits des réfugiés et des migrants de Human Rights Watch.
C'est essentiellement un trou noir. Je veux dire que vous envoyez les gens dans un endroit où ils n'auront pas la possibilité de contacter des avocats. Ils n'auront plus aucun contact avec leur famille. Ils seront complètement isolés. Et il semble, d'après ce qu'a dit le président lui-même, que l'intention soit de les y maintenir indéfiniment.
Aux États-Unis, les sans-papiers sont détenus dans des centres de détention et même dans des prisons. Le projet international d'aide aux réfugiés indique que les États-Unis ont déjà intercepté des migrants en mer et les ont détenus à Guantanamo par dizaines de milliers sous les administrations Reagan et Clinton et moins d'une centaine sous l'administration Biden. L'organisation affirme que ce que Trump veut faire est différent. Anna Flamm est directrice adjointe politique à l'International Refugee Assistance Project.
Jusqu'à présent, il n'est jamais arrivé que les États-Unis appréhendent, arrêtent des individus à l'intérieur des États-Unis à grande échelle dans le cadre d'une campagne d'expulsion de masse et envoie des personnes à Guantanamo. Cela n'a jamais été fait auparavant.
Guantanamo est, je cite, l'endroit idéal pour les migrants criminels, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en début de semaine.
Nous sommes prêts à soutenir la directive du président pour nous assurer que nous disposons d'un endroit pour les criminels illégaux violents lorsqu'ils sont expulsés du pays.
Pete Hegseth et d'autres fonctionnaires ont déclaré que les sans-papiers qui n'ont pas commis de crime peuvent être également amenés à Guantanamo. Tom Homan est le responsable de la politique des frontières de Donald Trump.
Les gardes-côtes rencontrent des gens en mer. Ils peuvent les emmener directement à Guantanamo.
Monsieur Trump a choisi Guantanamo parce que les États-Unis manquent d'espace de détention, a déclaré vendredi l'attachée de presse à la Maison-Blanche, Caroline Levy. Les gouvernements démocrates d'Obama et de Biden ont essayé en vain de fermer le camp de détention de Guantanamo, construit par l'administration de George W. Bush en 2002, à la suite de l'invasion américaine de l'Afghanistan qui a commencé peu après les attaques terroristes du 11 septembre.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Nani Totalani. Pour la présentation, j'ai bénéficié de l'assistance de Firmin Max Kouyaouida à la réalisation et celle de Calvin Fowler à la technique. Restez connectés à VOA Afrique pour suivre les évolutions de l'actualité tout au long de la journée. Pour plus de détails et des mises à jour en temps réel, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Je suis Nanit Talani depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale fédérale américaine. À la une de l'actualité, rapatriement des corps des soldats sud-africains tués dans l'est de la RDC, toujours en crise. La solution à cette crise sera au cœur de nos dossiers du jour avec les églises congolaises qui lancent un appel à la paix dans l'est et promettent une médiation nationale. Une interview exclusive de Monseigneur Donatien Choulé à suivre à ce sujet. Procès de l'opposition togolaise, 14 manifestants condamnés à 10 ans de prison. Les USA gèlent leur contribution au fonds de sécurité en Haïti, plongeant la mission de l'ONU dans l'incertitude. En économie, Salon de l'agriculture 2024 à Paris, le Maroc prend la tête avec ses produits du terroir. Et puis en sport, Souleymane Abidi Camara reprend les commandes de la sélection nationale locale de la Guinée. Tout de suite, les infos. Les corps de 14 soldats sud-africains tués ces deux dernières semaines lors de la prise de Goma par le groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo doivent être rapatriés ce mercredi, a annoncé hier le chef des forces de défense sud-africaines. Les détails avec Dili Diko. Nous reviendrons sur ces détails dans notre prochaine édition. Jean-Jacques Wundo, un Belge d'origine congolaise, condamné à mort en République démocratique du Congo pour sa participation à une tentative de coup d'État en mai, a été libéré de prison mardi pour recevoir des soins médicaux. D'après son avocat, Wundo doit arriver en Belgique jeudi. Le ministère belge des Affaires étrangères a confirmé sa libération, précisant que des efforts consulaires ont été déployés pour sa libération. Jean-Jacques Wundo, expert militaire ayant collaboré avec les services de renseignement congolais, avait été condamné à mort lors d'un procès militaire en septembre aux côtés de 36 autres accusés, dont 3 Américains. Il a toujours nié les accusations portées contre lui. Le premier ministre tchadien Alamaï Alina a été reconduit à son poste après avoir présenté sa démission le jour de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale élue en décembre 2024. Un décret présidentiel diffusé mardi a confirmé sa reconduction. Monsieur Alina avait annoncé sa démission dans une lettre adressée au président Mahamat Idriss Déby Itno, expliquant que cette décision faisait partie de la tradition républicaine suite à l'installation de la nouvelle législature. Au Togo, 14 personnes accusées d'avoir pris part aux manifestations contre le régime togolais en 2018 ont été condamnées à 10 ans de prison par la cour d'assises de Lomé. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Emprisonnés depuis 6 ans, les accusés ont été reconnus coupables de complot contre la sécurité intérieure de l'État et délit de groupement de malfaiteurs. Ils avaient participé à une manifestation de l'opposition en décembre 2018, malgré l'interdiction des autorités. 4 autres accusés en fuite ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'un mandat d'arrêt international. Darius Atsou, l'un des avocats des accusés, a déploré le manque d'audace de la cour d'assises, affirmant que les accusés avaient été torturés. L'une des personnalités de ce procès est l'Irlando-Togolais Abdulaziz Goma. Il avait été arrêté pour avoir pris en charge les frais de logement de plusieurs jeunes venus manifester. Sa détention arbitraire a été dénoncée à plusieurs reprises par la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme, Mary Leolore, qui elle aussi avait évoqué des actes de torture. En 2017 et 2018, des manifestations organisées par l'opposition et la société civile ont eu lieu au Togo pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces manifestations ont été sévèrement réprimées et plusieurs manifestants ont été tués par les forces de l'ordre.
C'était plutôt firmé Max Kouyaouida. Au Soudan, 25 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes de l'armée soudanaise sur le Darfour Sud, une région principalement contrôlée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces attaques ont visé Niala, la capitale du Darfour Sud, pour le deuxième jour consécutif. Les combats entre l'armée et les FSR, qui durent depuis avril 2023, ont causé des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés à travers le pays. 9 fonctionnaires, ou hauts fonctionnaires en tout cas, du ministère des Finances de l'Ouganda, dont le comptable général, ont été arrêtés pour avoir détourné près de 16 millions de dollars destinés au remboursement de prêts à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. La fraude a été découverte fin 2024 après que le vice-gouverneur de la Banque d'Ouganda a révélé des transferts suspects de fonds vers des comptes à l'étranger. Sur les 15,7 millions de dollars détournés, plus de 6 millions étaient destinés à la Banque mondiale et 8,5 millions à la Banque africaine de développement. L'enquête a confirmé qu'aucun piratage informatique n'était impliqué, mais que la fraude provenait de sources extérieures à la Banque d'Ouganda. L'Ouganda est classé 141e sur 180 dans l'indice de corruption de Transparency International.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le gouvernement du président Donald Trump continue de prendre forme après que Robert Kennedy Jr. a passé mardi l'un des derniers obstacles à sa nomination comme ministre de la Santé, malgré l'opposition d'élus démocrates qui dénoncent notamment ses positions anti-vaccins. Le point avec Jean-Roger Billon.
Robert Kennedy Jr. a obtenu la recommandation d'une commission du Sénat dont les 14 membres républicains ont voté pour et les 13 démocrates contre. Le neveu du président assassiné JFK doit désormais voir sa nomination confirmée par l'ensemble des sénateurs comme le veut la Constitution. Une étape qui s'annonce bien moins périlleuse au vu de la majorité dont disposent les républicains à la Chambre haute. À 71 ans, RFK Jr. doit prendre la tête d'un ministère employant plus de 80 000 personnes, avec pour programme de rendre à l'Amérique sa santé, calque du slogan « Make America Great Again » de Donald Trump. L'annonce de sa nomination avait provoqué l'indignation de nombreux élus démocrates en raison de son soutien à des théories comme celle faisant le lien entre vaccination et autisme chez les enfants. Il est toutefois salué par des personnalités des deux bords politiques pour son combat contre la malbouffe et la domination des groupes pharmaceutiques. Ex-démocrate Robert Kennedy Jr. s'était rallié à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle après avoir été candidat indépendant. Le président républicain lui a réitéré son soutien mardi.
Le Sénat américain a confirmé Pam Bondi à la tête du ministère de la Justice. Ancienne procureure générale de Floride et avocate de Donald Trump lors de son procès en destitution en 2020, Bondi a promis de ne pas politiser ses fonctions. Cependant, des sénateurs démocrates expriment des préoccupations sur son indépendance. Certains craignent que Bondi puisse obéir à Trump si ce dernier lui demandait d'agir de manière illégale. Bondi sera assisté par des avocats proches de Trump dans ses nouvelles fonctions. Les États-Unis ont demandé à l'ONU le gel immédiat de leur contribution au fonds destiné à financer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti, a annoncé un porte-parole des Nations Unies mardi. Cette mission, chargée d'aider la police haïtienne contre les gangs, était déjà sous-financée. Les précisions avec Mohamedou Oufa.
Nous avons reçu une notification officielle des États-Unis de suspension immédiate de leur contribution financière à la Force multinationale d'appui à la sécurité, a déclaré Stéphane Dujarric, donnant cette notification en exemple de l'impact du gel général de l'aide internationale américaine annoncé par Donald Trump. Avec 15 millions de dollars, les États-Unis étaient le deuxième contributeur de ce fonds, derrière le Canada qui contribue à hauteur de 63 millions de dollars. Sur les 15 millions versés par Washington, 1,7 million a déjà été dépensé, a précisé Stéphane Dujarric, indiquant que les 13,3 millions restants étaient désormais gelés. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné en octobre 2023 son feu vert à la mission internationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya pour aider la police de Haïti dépassée par la violence des gangs. L'ONU a mis en place un fonds volontaire pour la financer qui a recueilli jusqu'alors 110 millions de dollars, un montant jugé largement insuffisant. Dans le cadre de la mission, seulement quelques 800 policiers de 6 pays ont été déployés progressivement depuis l'été dernier sur les 2500 espérés. Et les attaques des gangs, qui contrôlent déjà, selon l'ONU, 85% de la capitale, ne semblent pas avoir faibli depuis.
James Hansen, un éminent climatologue américain, a déclaré que l'objectif de maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle fixée par l'accord de Paris était désormais mort. C'est tout pour les actualités. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à retrouver sur voaafrique.com. Eric Manirakiza nous livre maintenant l'essentiel des tendances économiques actuelles en Afrique et à l'international.
Le Salon de l'agriculture, qui aura lieu du 22 février au 2 mars à Paris, mettra pour la première fois un pays à l'étranger à l'honneur, le Maroc, ont annoncé mardi ses organisateurs qui veulent insister sur la dimension internationale de l'événement. Le stand du Maroc au sein du pavillon international sera agrandi et présentera des produits du terroir marocain, huile d'argan, d'olive, safran et date, a énuméré le directeur général de l'Agence pour le développement agricole. Les États-Unis ont suspendu pendant 30 jours l'imposition de tarifs douaniers sur les produits canadiens, mais des milliers de travailleurs du secteur automobile des villes frontalières restent inquiets face à 4 ans d'incertitude. Windsor dépend fortement de l'industrie automobile, notamment de la production de moteurs pour Ford, et sans elle, la ville risquerait une grave récession. Un véhicule moyen contient 30 000 pièces détachées qui traversent plusieurs fois la frontière entre les États-Unis et le Canada. Les économies de Windsor et de Detroit sont interconnectées et 500 000 emplois en Ontario, cœur industriel du Canada, sont en jeu.
À présent, notre résumé de l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Souleymane Abedi Camara reprend les commandes de la sélection nationale locale de la Guinée.
Oui, il y a quelques semaines, Souleymane Abedi Camara, sélectionneur du Sili National APIM, et son adjoint Guillaume Souma avaient été écartés de leurs fonctions par la Fédération guinéenne de football au motif que les deux techniciens ne disposaient pas des licences A, CAF ou équivalentes exigées par la Confédération africaine de football pour entraîner les équipes nationales. Cette réévaluation procède d'une mission d'information du président de la Fédération Araba en marge de la cérémonie de tirage au sort de la CAN Maroc 2025 et de l'évaluation du dernier développement de la situation au niveau de la CAF qui, bien qu'ayant envisagé ces critères dans le cadre de la professionnalisation du football en Afrique, ne décide pas de l'appliquer en ce moment et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Fédération guinéenne de football, ajoutant que Souleymane Abedi Camara et Guillaume Souma se sont engagés à accomplir leur mission et qu'ils ont sollicité du comité exécutif de la FEGIFOOT un appui pour bénéficier des 240 heures de formation pour la licence A.
Ici en NBA, Luka Doncic dit avoir fin du titre avec les Lakers.
Le prodige a promis de mener les Lakers de Los Angeles au titre de champion de la NBA lors de sa présentation officielle par la franchise hier, après son échange spectaculaire avec les Dallas Mavericks devant un partenaire de reporter, la superstar slovène de 25 ans a admis qu'elle n'avait pas encore digéré le choc de son départ de Dallas. C'est le business a sobrement commenté de son côté Anthony Davis au moment de quitter les Los Angeles Lakers pour les Mavericks. Doncic a lui déclaré que la perspective de jouer aux côtés de la légende LeBron James, âgé de 40 ans, au sein de la franchise la plus emblématique de la NBA, représentait un rêve devenu réalité et une opportunité d'apprendre. Des rumeurs ont suggéré que Dallas a opté pour l'échange de Doncic en raison des préoccupations concernant sa condition physique. Faux, selon Luka Doncic, qui dit vouloir se servir de ses critiques comme une source de motivation pour sa carrière aux Lakers.
Tennis, l'ex numéro 1 mondial Simona Halep annonce sa retraite.
La Roumaine, L'ancien numéro 1 mondial a annoncé sa retraite lors du tournoi de Cluj-Napoca disputé dans son pays. Simona Halep a pris la parole à l'issue de son match perdu face à l'Italienne Lucia Bronzetti, 72e mondial 6-1-6-1 lors du premier tour. Je ne sais pas si c'est avec joie ou tristesse que je vous parle, mais j'ai pris cette décision à mon âme et conscience. J'ai toujours été lucide, mon corps ne suit plus, mais aujourd'hui je voulais jouer et faire mes adieux sur le coup, a expliqué la joueuse de 33 ans devant le public roumain. Elle a remporté dans sa carrière 24 titres, dont Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019. Elle a aussi disputé trois autres finales du Grand Chelem, Roland-Garros en 2014 et 2017 et l'Open d'Australie en 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours dans ce studio, vous invite à découvrir nos dossiers du jour. Crise dans l'est de la RDC, la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC, Église du Christ au Congo, ont lancé ce que ces deux structures appellent le pacte social pour la sortie de crise. Ce projet de dialogue a été bien accueilli par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Hier, Mgr Donatien Tshole et le révérend Eric Senga ont entamé une tournée pour rencontrer toutes les forces vives de la nation. Depuis Kinshasa, la capitale congolaise, Mgr Donatien Tshole en parle au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Bon, je crois que vous avez déjà eu vent de ce projet, qui est une contribution des églises protestantes et catholiques de notre pays, comme réponse à la crise sécuritaire particulièrement, qui perdure depuis plus de 30 ans. Nous sommes devant l'évidence selon laquelle la solution militaire n'en est pas une. L'approche jusque-là de la diplomatie n'a pas encore obtenu des résultats escomptés. Voilà pourquoi nous voulons emprunter aussi dans la sagesse africaine, dans la philosophie de Mumuntu, l'approche de la palabre africaine, pour essayer de régler nos différends dans l'objectif d'arriver à un pacte social pour la refondation de l'État.
Et nous avons vu aujourd'hui, vous avez été aussi avec l'un des leaders de l'opposition, Martin Fayulu. Comment a-t-il reçu ce projet et comment est-ce que vous entrevoyez organiser ce que vous appelez les jours prochains, le dialogue que vous allez organiser?
Donc, il était question avec lui de lui expliquer notre philosophie pour y participer et que ça déjà comment il peut se préparer pour apporter sa contribution autant qu'on fera aussi avec les autres.
Nous savons que vous allez le faire aussi pour d'autres forces vives de la nation, comme vous avez dit, mais quelle garantie avez-vous, Mgr Tshole, par rapport à la démarche que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, que la situation pourrait s'améliorer pour que la paix revienne en RDC?
Bon, écoutez, il n'y a pas de garantie mathématique ni spirituelle à vous donner. Nous sommes des hommes de foi et d'espérance. Nous sensibilisant, mais il appartient à la dynamique qui sera mise en place de trouver le mécanisme pour la garantie de la mise en œuvre de ce qui sera décidé. Évidemment, en changeant déjà avec l'un et l'autre, il pose cette question de garantie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui garantit que ce qui sera décidé sera appliqué? Je ne vais pas donner des propositions à la place des autres. On sera nommé à y réfléchir, mais il y a moyen de mettre en place des mécanismes pour la garantie de la mise en œuvre de ce pacte.
Mgr Donatien Tshole, joint à Kinshasa en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
À la frontière entre le Tchad et le Darfour, la VOA a rencontré des réfugiés qui ont fait des témoignages poignants sur ce que les États-Unis ont décrit comme des actes de génocide au Soudan qui auraient été commis par les forces paramilitaires de soutien rapide. Alors que les réfugiés appellent à l'action, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre des dirigeants des forces de soutien rapide et des milices qui leur sont associées. C'est un reportage d'Henry Wilkins depuis Adré au Tchad, avec le récit d'Eric Maniragiza.
Nour al-Latif est une réfugiée qui, comme des centaines de milliers d'autres, a fui la région soudanaise du Darfour vers le Tchad pour échapper aux violences ethniques de ces deux dernières années. Elle est également psychologue de formation et passe désormais ses journées dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et le Darfour, où elle apporte un soutien psychosocial aux victimes.
Le traumatisme psychologique est pénible. La perte d'êtres chers est immense. Les décès sont devenus trop fréquents. Certaines familles ont perdu leurs deux parents. Dans ces cas-là, l'enfant devient le gardien de la famille.
Al-Latif explique qu'elle travaille avec une jeune fille de 14 ans qui est devenue chef de famille après la mort de ses deux parents. La VOA a passé plus d'une semaine dans le camp de réfugiés d'Adré à parler aux victimes.
Pratiquement tout le monde ici dans le camp d'Adré a une histoire horrible à raconter. Des amis, des membres de la famille, des voisins ont été assassinés dans ce que les États-Unis ont appelé un génocide.
Et les États-Unis affirment que d'autres crimes contre l'humanité sont également commis. Le nom de cette réfugiée a été changé et son identité protégée par crainte de représailles si elle retourne au Darfour.
Ils ont tué ma mère et mon frère. Ils les ont tués dans ma maison. Ils ont tué beaucoup de gens.
Il raconte qu'elle a ensuite été violée par des milices liées aux forces paramilitaires, les forces de soutien rapide FSR. Mohamed Idriss Adam, un artiste bien connu dans la ville d'Arfouri d'El Jenina, raconte qu'il figurait sur une liste de cibles des forces de soutien rapide. Il a fui la ville, laissant derrière tout ce qu'il possédait.
Le monde entier condamne les violations des droits de l'homme et il existe des accords dans le cadre des Nations Unies, etc. Les responsables doivent être jugé pour les crimes commis au Darfour.
Les États-Unis ont sanctionné le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, et d'autres membres importants du groupe. Pendant ce temps, le traumatisme des victimes continue, dit Al-Latif. Et pour beaucoup d'entre elles, il semble s'aggraver la nuit.
Pendant la journée, ils ont tous l'air d'aller bien, mais la nuit, ce sont les cris et le chaos dans les rues. C'est incroyable.
Bien que les Darfouris d'Adré aient eu la chance de s'échapper, ils vivent toujours avec l'horreur dont ils ont été témoins.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM. Au Bénin, le coton est bien plus qu'une culture. C'est l'or blanc du pays et le pilier de son économie. Les cotonculteurs passionnés offrent de la matière aux installations ultramodernes de la zone industrielle de Glodibé et aux artisans. Yakuba Ouedraogo nous introduit dans l'univers de cette filière stratégique pour le Bénin.
Vue aérienne sur le champ de coton de 3 hectares de Mathias Azonundo à Soklobo dans la commune de Dassazoumi. C'est le temps de récolte pour ce cotonculteur de 50 ans ici à l'œuvre avec l'aide de 3 salariés dans le centre du Bénin.
L'année passée, j'ai pu obtenir une production de 4,4 tonnes. Pour cette récolte, je ne sais pas encore exactement ce que cela va donner parce que cette production n'a pas donné ce que j'espérais.
Depuis plusieurs mois, la demande en coton augmente dans le pays. Le Bénin devrait produire 669 000 tonnes de coton pour la campagne 2024-2025.
Le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2021. Et donc, toute cette production était exportée de façon brute vers le Bangladesh et d'autres pays.
Mais récemment, le pays s'est lancé dans l'exportation de produits finis en coton made in Bénin. Cette ambition repose en grande partie sur la zone industrielle de Glodibé dans le sud du pays. Le site comprend des unités de filature, tissage, teinture et tricotage pour fabriquer des produits textiles 100% coton.
Aujourd'hui, la GDIZ a une capacité de transformation de 40 000 tonnes de fibres. Et donc, pour transformer tout ce que nous produisons comme fibres aujourd'hui en République du Bénin, à peu près 305 000 tonnes de fibres, Il nous faut une trentaine d'unités intégrées de textile.
Ici, dans ce showroom de la zone, des échantillons des différents articles fabriqués par la société sont exposés. On y voit des t-shirts, des chemises, des pantalons, des robes ou encore des uniformes militaires et de policiers. Le Bénin transforme désormais un tiers de son coton selon l'agro-économiste Nestor Adjovi.
Il y a un certain nombre de gens qui vont rentrer dans cette dynamique et qui donc qui vont trouver de l'emploi. Il y a des emplois directs et les emplois indirects. Et il y a aussi les revenus que les uns et les autres pourront tirer et ce qu'ils pourront en faire.
À plus petite échelle, des petits artisans comme la marque de vêtements et bijoux couleur indigo, située dans la ville côtière de Ouida, s'y mettent aussi. Elle a été créée en 2007 par Nadia Adanlé, qui dit vouloir proposer un produit authentique purement béninois en coton.
Ici, on a fait le choix d'utiliser le coton déjà parce qu'on en produit et il fallait bien valoriser notre propre matière première. Et deuxièmement, l'avantage du coton par rapport à d'autres fripes, c'est déjà le confort à l'usage. Quand on porte ce coton, il est aéré, il est bon pour le corps, il est hypoallergénique.
L'étendue béton estime que les investissements présents et futurs permettront dans les 5 à 6 prochaines années d'avoir une trentaine d'unités intégrées de textile pour transformer la quasi-totalité du coton au Bénin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les groupes de défense des droits humains s'opposent au décret du président américain Donald Trump visant à détenir les sans-papiers au centre d'opération pour les migrants de la base navale américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Alors que des migrants ont été détenus à Guantanamo sous les administrations précédentes, ces groupes affirment que ce que fait Trump est différent. Le reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara. Récit Claire Morin-Gibourg.
Guantanamo Bay à Cuba est surtout connu comme la prison où étaient détenues des personnes soupçonnées de terrorisme, notamment celles amenées après les attentats du 11 septembre 2001 et des membres des talibans. Cette semaine, la base navale américaine a de nouveau été mise en avant alors que les autorités préparent le centre d'opération pour migrants qui doit détenir 30 000 migrants en vertu du décret du président Donald Trump.
Cela pourrait augmenter, oui, mais les pays qui ne veulent pas reprendre les criminels qu'ils nous ont envoyés, vous savez, ils nous les ont envoyés, ils les ont mis dans les caravanes et ils sont entrés aussi sûrement que vous vous tenez là, ils ont été envoyés par ces pays et alors ils seront accueillis très durement avec des sanctions, etc.
Les groupes de défense des droits affirment que la loi américaine autorise la détention d'un migrant pour une courte période en attendant son expulsion. Mais si le pays d'origine n'est pas disposé à accepter la personne, la détention pour une durée indéterminée est illégale. À Guantanamo, les détenus n'ont aucun recours. Bill Frelick est le directeur de la division droits des réfugiés et des migrants de Human Rights Watch.
C'est essentiellement un trou noir. Je veux dire que vous envoyez les gens dans un endroit où ils n'auront pas la possibilité de contacter des avocats. Ils n'auront plus aucun contact avec leur famille. Ils seront complètement isolés. Et il semble, d'après ce qu'a dit le président lui-même, que l'intention soit de les y maintenir indéfiniment.
Aux États-Unis, les sans-papiers sont détenus dans des centres de détention et même dans des prisons. Le projet international d'aide aux réfugiés indique que les États-Unis ont déjà intercepté des migrants en mer et les ont détenus à Guantanamo par dizaines de milliers sous les administrations Reagan et Clinton et moins d'une centaine sous l'administration Biden. L'organisation affirme que ce que Trump veut faire est différent. Anna Flamme est directrice adjointe politique à l'International Refugee Assistance Project.
Jusqu'à présent, il n'est jamais arrivé que les États-Unis appréhendent, arrêtent des individus à l'intérieur des États-Unis à grande échelle dans le cadre d'une campagne d'expulsion de masse et envoie des personnes à Guantanamo. Cela n'a jamais été fait auparavant.
Guantanamo est, je cite, l'endroit idéal pour les migrants criminels, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en début de semaine.
Nous sommes prêts à soutenir la directive du président pour nous assurer que nous disposons d'un endroit pour les criminels illégaux violents lorsqu'ils sont expulsés du pays.
Pete Hegseth et d'autres fonctionnaires ont déclaré que les sans-papiers qui n'ont pas commis de crime peuvent être également amenés à Guantanamo. Tom Homan est le responsable de la politique des frontières de Donald Trump.
Les gardes-côtes rencontrent des gens en mer. Ils peuvent les emmener directement à Guantanamo.
Monsieur Trump a choisi Guantanamo parce que les États-Unis manquent d'espace de détention, a déclaré vendredi l'attachée de presse à la Maison-Blanche, Caroline Levy. Les gouvernements démocrates d'Obama et de Biden ont essayé en vain de fermer le camp de détention de Guantanamo, construit par l'administration de George W. Bush en 2002, à la suite de l'invasion américaine de l'Afghanistan qui a commencé peu après les attaques terroristes du 11 septembre.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Nanit Talani. Pour la présentation, j'ai bénéficié de l'assistance de Firmin Max Kouyaouida à la réalisation et celle de Calvin Fowler à la technique. Restez connectés à VOA Afrique pour suivre les évolutions de l'actualité tout au long de la journée. Pour plus de détails et des mises à jour en temps réel, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt.